les jardinières.
Allez, on se réveille doucement, on est déjà à la mi-décembre, les guirlandes sont de sortie et nous on va surtout parler de ce qui pousse dehors. Bonjour Noélie.
Bonjour Léo, bonjour tout le monde.
Ce matin on a la chance d'être accompagné par un spécialiste du terrain, au sens propre du terme, Jean-Pierre Ribaud est avec nous, bonjour.
Bonjour tout le monde.
Vous êtes paysagiste à Queuve chez Ribaud Paysages, merci d'avoir accepté de venir partager votre expérience avec nous ce matin.
Vous êtes à l'écoute des jardinières, votre rendez-vous jardinage du samedi matin jusqu'à 8h sur RGB, RTN et RFJ.
Les jardinières.
Jean-Pierre, la période des fêtes approche, les feuilles ont fini de tomber, les journées raccourcissent, le sol se refroidit. Bon, vu de loin, on a un peu l'impression que le jardin entre en pause. Pourtant, pour celles et ceux qui aiment s'occuper de leur coin de verdure, il reste encore des gestes utiles à faire avant l'hiver. Si on regarde le jardin dans son ensemble, sur quoi est-ce que les jardiniers et jardinières devraient concentrer leur énergie en ce moment ?
Oui, alors bien sûr, comme vous l'avez dit, toutes ces feuilles ont chuté de cette végétation, elles se répartissent sur le sol. Et puis le nettoyage de ces feuilles est important parce que s'il y a trop d'épaisseur, eh bien on va perdre passablement d'éléments durant cet hiver par cette couverture. Et puis on aura des soucis au printemps de redémarrage de végétation. Donc ce nettoyage est indispensable. On a toujours un peu de désherbage qui peut rester dans les massifs de roses, de vivaces et autres. Et puis ce qu'on peut aussi faire à cette période, c'est trouver de l'adar de sapin, des branches de sapin donc. Et puis faire des jolies décorations sur les massifs, protéger un peu les massifs des vivaces, des rosiers, et puis embellir tout cela avec la rose de Noël, par exemple, qui est super en fleur à cette période, et puis qui épanouit tous ces jardins pour ces fêtes de fin d'année.
Merci Jean-Pierre, vous allez rester avec nous jusqu'à 8h, et comme d'habitude, vous répondrez aussi aux questions de nos auditrices et de nos auditeurs dans la deuxième partie de l'émission. Si vous avez une interrogation jardinage, vous pouvez déjà nous l'envoyer, soit par téléphone au 0 901 70 20 20, il faudra attendre la fin d'émission, ou alors par SMS dès maintenant en tapant le mot jardin, laissez un espace, puis votre question et votre nom au 939. Et enfin, la dernière manière de s'y prendre pour nous joindre, c'est par formulaire sur notre site. Vous pouvez d'ailleurs y joindre une petite photo si ça aide à comprendre la situation.
7h, 8h, les jardinières.
Nous sommes toujours en compagnie de Jean-Pierre Ribaud, paysagiste à Queuve. Quand on parle de haies, on pense d'abord au fait de cacher la vue ou de créer une limite. Pourtant, dans un jardin, une haie elle, peut remplir de nombreux rôles bien différents. Alors, si par exemple on prend un peu de recul, Jean-Pierre, comment vous définiriez aujourd'hui l'utilité d'une haie dans un espace extérieur, que ce soit en ville ou la campagne ?
Oui, bien les haies, bien sûr, elles remplissent nos volumes. Ça veut dire soit on en fait une pour de la décoration avec des arbustes espacés, soit on va faire un pare-vue hermétique à la vue pour masquer une surface, une piscine, une construction qui doit vous déplaire sur le parallèle. Les haies, on peut aussi faire par rapport à des coupe-vents. On limite un peu les bises et puis les grands vents selon la plantation. C'est souvent des objectifs qui peuvent arriver. On en met aussi de temps en temps autour des pompes à chaleur parce qu'il faut masquer des éléments. Il y a des pylônes ou des choses comme ça. Enfin voilà, l'air remplit pas simplement de fonctions. Toujours se poser vraiment la bonne question de savoir où la planter, quel est le type. Enfin voilà, on va détailler tout cela.
Derrière ce mot haie, on met en réalité des projets très variés. Il y a celles qui servent surtout d'écran, celles qui coupent le vent, celles qui nourrissent les oiseaux, voire qui donnent des fruits. Quand quelqu'un vous appelle en disant « je veux une haie chez moi », par quoi est-ce que vous commencez pour clarifier son besoin ?
Bien déjà d'essayer de comprendre son objectif, de rentrer dans son univers paysager et puis d'analyser les choses. Si vraiment vous avez des espaces, comme on a dit, qu'il fallait masquer, on peut comprendre la situation, donc on va chercher des éléments pour faire cette structure. Il est aussi des fois où on va dire au client, mais dans quel intérêt vous voulez mettre cette haie sur cette portion de terrain-là ? Et puis ça arrive assez fréquemment qu'on va diminuer vraiment les longueurs de haies, surtout les haies qui sont en continu, parce que quand on sait l'entretien qu'elles vont générer dans le temps, eh bien, l'objectif c'est vraiment de les utiliser à bon escient, et puis là où il n'y a pas besoin de faire des parvues très denses, eh bien, on viendra plus volontiers avec des arbustes pour égayer l'espace, pour embellir la situation pour les oiseaux et autres.
Une fois qu'on sait à quoi elle va servir, il reste cette grande question, où la mettre, où la placer, entre l'orientation, le vent dominant, la nature du sol, la pente, la proximité de la maison, du potager, il y a pas mal de paramètres à jongler. Alors, quand vous dessinez une haie pour un client, c'est quoi ces éléments du terrain que vous allez regarder en premier pour décider du tracé et de l'emplacement ?
Eh bien, comme j'ai dit tout à l'heure, on va vraiment voir, comprendre l'objectif du client par rapport à son espace. Après, si vous avez par exemple une propriété avec un talus, on va chercher plus volontiers à mettre la haie sur le sommet de talus pour avoir une haie plus basse que de la mettre dans un bas de talus pour avoir un autre élément beaucoup plus haut pour jouer cet objectif. Il faut comprendre qu'il n'y a pas forcément toujours besoin de masquer des éléments dans le terrain. Encore une fois, vraiment réfléchir sur quel est l'intérêt. Et puis, si vous avez des terrasses où vous avez de la bise ou des forts courants que vous voulez masquer, eh bien là, on viendra vraiment avec une haie beaucoup plus dense pour couper ces courants. Voilà.
Et puis, il y a tout ce qui est un peu plus sensible, la limite de propriété, par exemple, la route, les trottoirs ou encore les voisins qui n'ont pas forcément envie de se retrouver dans l'ombre. On entend parler de distance à respecter, de hauteur limitée ou encore de règlements communaux, sans rentrer dans un tableau de loi. Quels sont les grands principes à garder en tête pour être dans les clous et éviter les conflits de voisinage quand on implante une haie ?
Alors, il faut comprendre que les règlements sont différents selon les zones, selon les communes, selon les quartiers. Le droit cantonal donne une distance de 50 cm pour une hauteur de 2 mètres pour une haie implantée. Vous n'avez pas besoin de permis d'autorisation. Si vous voulez une haie plus haute par rapport à cela, sur le droit cantonal, vous devez la reculer d'autant. Ça veut dire une haie de 2,50 m, vous rajoutez ces 50 cm au premier 50 cm, on la plantera à 1 mètre. Après, si vous avez un règlement de quartier, un règlement de zone, eh bien, il faudra vraiment s'y adapter. Il y a aussi, il faut comprendre, des zones dans lesquelles on a interdiction de planter des haies continues. Donc là, on pourra venir avec des arbustes isolés. En général, c'est le client qui est informé de cette situation par rapport à la demande de permis qu'il aura réalisé au préalable pour la construction de son bâti. Et puis, évidemment, en bordure de route, il faudra vraiment être attentif à pas faire un obstacle visuel, parce que vous pourriez être porté responsable quand même de couper cette visibilité dans un angle. Aussi, pas d'autogol pour vous, quand vous mettez une haie pour vous-même, que vous ayez encore de la visibilité pour sortir de vos cours, de vos espaces, parce qu'évidemment, une haie, une fois qu'elle est implantée, elle y est pour des années. Et puis, en général, elles prennent vite de la largeur et de la hauteur, et puis prévenir tout cela pour ne pas être embêté dans le temps.
Encore une chose, Jean-Pierre, une fois qu'on a réglé le où et le pourquoi, vient le choix des plantes. Et de laurier bien dense et champêtre avec des essences locales, mélange de persistants, de caduc, arbustes à fleurs, arbustes à baies. Ça peut vite devenir un casse-tête, hein, tout ça. Alors comment est-ce qu'on construit un bon cocktail d'essences pour une haie qui soit à la fois esthétique, robuste et intéressante pour la faune ?
Ouais, alors je reconnais que la panoplie des essences qui peuvent composer une haie est très dense. En tous les cas, le premier que vous avez cité, le laurier, il est à proscrire de nos espaces. Il faut savoir que c'est une plante qui a été classée plante invasive. Pour ceux qui se baladent des fois dans la nature, on se rend compte que tout à coup, on a des lauriers qui germent par des graines qui ont été déposées par des oiseaux, qui ont été prélevées dans les haies des bâtis. Et puis, comme on n'a plus d'hiver rigoureux par chez nous, le laurier ne gèle plus. Donc, il arrive à s'épanouir dans le milieu nature. Et puis, pour cela, il a été classé plante invasive. Donc, celui qui en a peut encore le garder. En replanter est interdit. Après, pour le reste, on a des essences comme le photinia. C'est une espèce de parallèle au laurier, un persistant où il n'y a pas les fruits, où il n'est pas invasif, qui a pris pied au niveau des haies par chez nous. Mais après, vous avez tout ce qui est des feuillus, le hêtre, le charme, vous avez les conifères, principe du if. Le thuya est aussi à proscrire parce que c'est plus une plante qui est adaptée à notre situation. Lui supporte très mal les étés chauds que l'on subit et puis on a beaucoup de pertes dans ces thuyas. Le sapin n'est pas très intéressant parce qu'il vieillit très très mal. C'est plutôt le privé qui pourra, le professionnel qui pourra vraiment vous renseigner sur ces espaces, sur ces choix de végétaux. Il est aussi intéressant de pouvoir travailler avec des essences à fruits, à fleurs. On peut aussi très bien partir sur une haie de fruitiers, hein, faut comprendre, on les met en palissade sur fil et puis quitte à faire une double ligne, ça va vous opacité tout cela et puis en plus vous aurez les fruits qui seront à disposition.
7h, 8h, les jardinières.
Avec Jean-Pierre Ribaud, paysagiste à Queuve, on a posé les bases ce matin. À quoi peut servir une haie, où la placer, comment réfléchir à son projet. Alors maintenant, on va sortir les bottes et passer à la pratique. Pour un jardinier amateur ou une jardinière amatrice qui a tracé son futur alignement de haie, comment se déroule concrètement la plantation? Est-ce qu'on creuse juste un trou par arbuste ou est-ce que l'idéal, c'est plutôt de préparer une vraie tranchée sur toute la longueur?
Eh bien, une fois que vous avez les bottes, il faudra déjà commencer par chercher les bornes de votre espace pour être sûr que vous la plantez à la bonne distance, parce que sinon, ça peut vite poser souci. Et puis, une fois que vous avez tiré la ficelle, le cordeau sur l'alignement, eh bien, ce sera un peu selon les végétaux que vous aurez choisis. Mais en général, on ne fait jamais une plantation très très dense, on les accole jamais l'un contre l'autre, si ce n'est par exemple une petite haie des potentilles qui arrive à 50-60 cm de haut. Bien sûr, on va les mettre en plus dense que si on met des charmes que l'on peut planter quasi à 81 mètres de distance. Donc, en général, c'est souvent du plan par plan, donc des trous ponctuels qu'on va réaliser pour la plantation de haies. Si vraiment vous avez une petite haie avec des petits végétaux, ça peut arriver que l'on fasse une saignée, mais une fois que le terrain a été bien ameublé avec une bêche, en général, nous les professionnels, on travaille plan par plan, on ne fait jamais de saignée.
On entend souvent dire que la meilleure période pour planter haies et arbustes, c'est la saison des racines nues entre l'automne et le début du printemps. Si on rentre un peu dans le détail, quels sont, selon vous, les bons créneaux pour planter chez nous?
Eh bien, un bon professionnel va vous conseiller vraiment de faire une plantation de racines nues selon la haie que vous aurez choisie. L'avantage, c'est que vous allez diviser le prix d'achat des végétaux à peu près par 3. Après une plantation de racines nues, c'est évident que ça se passe toujours entre novembre et mi-mars, pas au-delà, pas avant. Faut comprendre qu'une fois que le plant a été arraché sans terre, il faudra le replanter très rapidement. Après, si vous faites une plantation de plantes en motte ou en pot, eh bien la motte, on va aussi privilégier ces temps-là. On trouve pas forcément toutes les plantes de haies en racines nues, on les trouve pas forcément toutes en motte, et puis on les trouve pas forcément toutes en container, en pot. Donc c'est vraiment un professionnel qui pourra vous conseiller, même un vendeur en pépinière. Faut savoir se faire accompagner d'un bon collaborateur, un bon vendeur pour cela.
Une fois que tout est en terre, il y a le premier arrosage, puis les semaines qui suivent. En hiver, on pourrait se dire que la pluie, elle suffit largement, mais dans les faits, comment on gère l'eau pendant les premiers mois après la plantation, surtout si l'automne a été sec ou si le sol draine très vite?
Alors déjà, si vous avez reçu vos plants dans votre espace pour l'implantation et puis que c'est des plantes en racines nues, on pourra pas les laisser plus d'une demi-journée en racines nues à l'air, dégagées par tant de bises ou pluie ou je sais pas quoi. Vous allez assécher les racines qui va vraiment péjorer la reprise de ces végétaux. Donc tout ce qui est de racines nues livrées devra être mis soit en jauge, soit planté rapidement. Après, pour le reste, qui est de motte ou de pot, ça pourra se conserver plus longtemps. Bien sûr qu'une fois qu'on l'aura planté, il faudra faire un arrosage. Après, ça la jugeote. Hein. Si vous avez un printemps très sec avec une plantation d'hiver, il faudra quand même arroser au printemps parce qu'évidemment que les racines doivent se mettre en place, le terrain doit se mettre en place. Après, au bout de... Allez, encore le premier été, selon l'espace dans lequel il est planté, si vous avez un terrain très séchard, l'arrosage va être indispensable. Puis après, c'est en général des essences qui se développent facilement et assez rapidement.
La première année, la haie a plutôt besoin de s'installer que d'être coiffée. Sur l'entretien des débuts, quel conseil vous donnez, Jean-Pierre?
Bien déjà, la plantation, selon les essences, le vendeur ou le paysagiste va le faire ou va vous le conseiller. Il faudrait les tailler, les pincer pour les ramifier. Ça dépend un peu des essences. Si vous prenez un if, tout le monde connaît le if, je pense, le conifère vert. Lui, on ne va pas le tailler forcément parce qu'il n'y a pas besoin de le ramifier. Il est très, très dense à la plantation. Si vous achetez des charmes ou des hêtres pour une haie et puis qui sont très longs et étiolés, il faudra un peu les rabattre, un petit peu les pincer sur le latéral, sur les brindilles, pour justement multiplier les branches pour densifier très rapidement la couverture visuelle que la haie doit remplir.
Les jardinières.
Les jardinières, c'est votre rendez-vous jardinage jusqu'à 8h. Ce matin, on a pris le temps de s'intéresser à tout ce qui se plante en ligne longue, les haies. On a parlé de leur rôle dans le jardin, de la manière de choisir l'endroit où les installer, des distances à respecter, du choix des essences et des bons gestes pour la plantation. Vous retrouverez tout ça en podcast dans la matinée sur notre site. Et maintenant, c'est à vous de prendre le relais. Place à vos questions jardinage.
Que ce soit à propos d'une haie que vous rêvez d'implanter, d'arbustes qui ne se plaisent pas chez vous, ou de questions hors sujet de n'importe quel autre coin de votre jardin, vous pouvez nous appeler maintenant au 0901 70 20 20 pour passer à l'antenne. Vous pouvez aussi nous envoyer une photo via le formulaire sur nos sites ou un SMS. Hein, vous écrivez le mot jardin, vous laissez un espace, votre question et votre nom que vous nous envoyez au 939.
Et on commence avec une toute première question qui nous vient de Lisa de Moutier, qui revient en fait sur notre thème du jour. Hein, quelles sont les haies interdites qui se répandent trop ?
Eh bien, bonjour Lisa. Oui, en fait, dans les haies, on n'a pas parlé forcément du bambou. C'est un élément qu'on n'aime pas implanter chez le privé, parce que malgré toute l'assiduité qu'on aura mis en place pour la pose de la protection des rhizomes, eh bien, le bambou est un élément que, si par mégarde, il y a un peu de cas sur la protection du rhizome, du plastique qu'on opposera, eh bien, il colonisera très très vite l'espace du voisin, et puis vous aurez des gros soucis. Et puis sinon, vraiment au niveau des plantes interdites, alors le laurier du Caucase et puis les cousins du style la variété Autolwickens, ça c'est des variétés qui peuvent donc donner des fruits et puis ceux-là sont proscrits par la loi. Il faut comprendre que nous on n'a plus le droit de les produire, de les multiplier, donc en théorie on ne doit pas arriver à les trouver dans les marchés. Après il y a le laurier du Portugal, alors là bien sûr la différence ce sera un professionnel qui pourra vous l'expliquer. Le laurier du Portugal, on arrive encore on peut toujours le planter en haie, il est aussi sympathique, il est très dense, il garde ses feuilles, enfin voilà. Pour le reste des essences, on n'a pas vraiment de particularité, si ce n'est qu'il faut vraiment gérer et les hauteurs et les largeurs et puis les distances de plantation pour ne pas être embêté avec le voisinage.
Merci Jean-Pierre, on continue avec les questions de nos auditeurs, en l'occurrence ici une auditrice Pauline de Seignes-Léger qui nous écrit « J'aimerais commencer à nourrir les oiseaux du jardin ici à Seignes-Léger. On commence déjà ou alors est-ce qu'elle attend les premiers vrais épisodes de neige et qu'est-ce que vous conseillez comme type de graines pour aider les oiseaux sans attirer tout le voisinage de souris ?»
Moi, je trouve ça sympathique de fourrager, de nourrir déjà ces oiseaux à cette période. Et puis, ils auront pris l'habitude de l'agrainage. Et puis, par forte d'hiver, dites-vous, de froid, j'entends, de neige, eh bien, ils auront l'habitude de trouver ce perchoir. Et puis, au niveau des semences, des graines, eh bien, il faudra acheter ça dans le commerce. On préfère avoir des semences, des graines, encore une fois, je m'excuse, qui sont plutôt de matériel gras, comme le tournesol ou autre, on les trouve vraiment dans le commerce. L'avantage, c'est qu'ils ne gèlent pas, ils ne démarrent pas forcément en germination. Et puis, pas oublier peut-être la petite plaque de margarine ou de graisse de coco. La mésange apprécie vraiment cette alimentation-là durant le froid, ça lui donne beaucoup d'énergie. Surtout, ne pas mettre de pain, de biscuits et autres, parce que cela, ça gèle. Et puis, s'il venait à bécorer ces éléments, cette masse froide dans le gosier de l'oiseau pourrait lui poser des gros soucis, voire périr.
Un autre message qui nous vient de Laurent de Delémont. J'ai refait ma pelouse au printemps dernier, mais il y a déjà plein de zones dégarnies et de mousse qui revient. Est-ce que je dois tout ressemer au printemps prochain ou est-ce qu'il existe une méthode pour réparer seulement les plaques abîmées sans tout retourner ?
Oui, alors, il est un petit peu tard de se poser la question. Il aurait fallu intervenir plus tôt, déjà dans le mois de juin, juillet, août, quand on voit que la pelouse commence à s'étioler et puis que la mousse prend place. C'est souvent qu'on a soit des problèmes d'humidité, soit des problèmes de sec, soit des problèmes de terre qui n'est pas assez riche. Et puis, évidemment, le gazon se perd et puis au détriment de la mauvaise herbe et puis de la mousse. Alors, dans cette situation, bien sûr qu'au printemps, il faudrait pouvoir faire une scarification, un sursemis, et puis de l'engrais ou un terreau de couverture en tout cas. Et puis, pour ne pas arriver à ce stade de nouveau à l'automne, à l'hiver prochain, eh bien, c'est tout au long de l'année qu'il faudra s'en occuper par de l'arrosage, de l'engrais, le densifier, pas le tondre trop bas durant l'été, pour combattre la mousse. Il n'y a que ces éléments-là. Et puis, la mauvaise herbe, c'est souvent aussi des problèmes qui arrivent quand vous avez une semence qui est trop étiolée au niveau du du gazon. Et puis la mauvaise herbe qui est beaucoup plus robuste, eh bien, elle vient remplir ces espaces de terre qui restent ouvertes. Et puis vous avez ce désagrément de pelouse qui arrive comme ça.
Merci Jean-Pierre, on continue avec une question d'Isabelle de La Chaux-de-Fonds. Elle nous écrit « J'ai planté une haie de thuya il y a 10 ans pour me cacher de la route, mais elle devient énorme et sombre. Est-ce qu'elle peut la rabattre sévèrement pour récupérer de la lumière ou ça risque de laisser des trous bruns qui ne reverdiront jamais ?»
Oui, alors effectivement, la haie de thuya, au même titre que la haie de sapin, c'est les deux types de haies qu'on a le plus de problèmes pour l'entretien ou pour la diminuer dans la largeur et la hauteur. Pardon. Du moment que vous arrivez dans du sec, dans ces deux conifères-là, au niveau de la haie, vous n'arrivez pas à reverdir, c'est impossible. Donc, si vous voulez vraiment rabattre une haie de thuya, eh bien, on essaie de tailler en négatif le centre du thuya pour que les extérieurs viennent un peu couvrir ces espaces sèches. Mais le mieux pour les propriétaires de haies de thuya et de sapins, c'est de les entretenir régulièrement, les tenir étroites, tenir la hauteur régulière pour ne pas devoir intervenir trop méchamment. Parce qu'après, eh bien, il n'y a pas d'autre solution si ce n'est que de la remplacer, effectivement. Une haie qui est trop large, eh bien, c'est la même chose. Si vous avez la chance d'avoir une haie de charme qui fait 2 mètres de large, vous prenez un sécateur, une tronçonneuse, vous rabattez l'ensemble à la hauteur du tronc. 2 ans plus tard, votre haie de charme, elle sera de nouveau dense sur une largeur de 30-40 cm. Le thuya, il est impossible de pratiquer de la sorte, y compris pour le sapin.
On a encore une question plus intemporelle de Corinne de Neuchâtel qui nous dit « J'ai des rosiers buissons qui fleurissent bien, mais j'ai toujours des taches noires sur les feuilles et ça tombe en été. Alors est-ce que ça vient de la variété, de l'arrosage ou d'un manque de traitement préventif? Qu'est-ce que je peux faire pour limiter ces maladies sans pulvériser des produits trop agressifs ?»
Les rosés sont sujets à la maladie le Marsonia, c'est un champignon qui se développe quand on a les températures qui sont élevées avec l'humidité au sol. Il commence l'attaque sur les feuilles qui se trouvent à la base du rosier et puis effectivement vous perdez l'ensemble de votre feuillage jusque tout en haut parce que température et humidité fait que ce champignon se développe. Ça vous fait des auréoles noires sur le feuillage et puis juste le fait de les toucher ou un coup de vent, vous perdez ce feuillage et puis c'est désolant. Il y a des variétés qui sont très sujets à ce phénomène, d'autres qui sont beaucoup plus robustes. Je n'entrerai pas dans le détail, les variétés de rosiers sont très denses, on peut trouver sur le net ou chez le professionnel. Traiter est quand même indispensable si vous voulez garder votre feuillage à la hauteur de vos espérances. Il faut comprendre que si vous avez un joli feuillage sur les rosiers, eh bien vous aurez une super floraison parce que c'est évidemment le feuillage qui va alimenter le plan de matière d'éléments nutritifs par la transformation. Et puis comme ça, vous êtes garanti d'avoir une quantité de fleurs épanouies. Et puis quand on le sait, une fois que les fleurs ont passé, eh bien à ce moment-là, si vous avez plus ce feuillage qui est dense à la base, vous pouvez vous permettre de rabattre plus bas. Ça va aussi permettre de stimuler le redémarrage des pousses. Et puis sur ces pousses-là, ces nouvelles pousses, le feuillage sera quand même plus robuste que sur les anciennes branches.
On s'en va du côté de Bienne pour la prochaine question, une question qui nous vient de Patrick. Il nous écrit « Sur mon balcon, j'ai des bacs de géranium et de surfinia qui s'essoufflent chaque année dès le mois d'août. Est-ce que je dose mal l'engrais, j'arrose trop, ou il faut simplement changer de plante pour avoir des jardinières qui tiennent jusqu'en octobre ?» Jean-Pierre, vous pouvez répondre à cette question.
Oui, bien sûr. C'est des plantes qui sont quand même robustes, géranium et surfinia. C'est certainement un problème d'arrosage, d'exposition, peut-être de quantité de terreau dans le bac. Je ne vois pas, je connais pas l'élément. Il faut quand même tenir de l'arrosage régulier pour ces terrines. L'engrais une fois par semaine avec un engrais liquide, surtout à cette période-là, à partir de juin, juillet, août, parce que au démarrage, au printemps, la plantation, on sait que le terreau aura de l'engrais de longue durée, mais cet engrais, à partir de juin, juillet, il va s'essouffler, la végétation l'aura absorbé, et puis il faut faire un rajout pour arriver à entretenir ces massifs. C'est certainement un gros problème d'arrosage et puis d'exposition avec un peu d'engrais que vous rencontrez, que ce soit n'importe quelle plante dans un pot, il faut comprendre que le pot est un élément de torture un peu pour ces végétaux parce que le soleil tape contre les parois, ça tempère très vite au niveau des racines, ça assèche le terreau, l'espace est restreint, l'eau est vite loin, les éléments nutritifs sont vite mangés, donc c'est quand même un entretien continu pour avoir des jolies caissettes.
Et on termine avec Gilbert de Corgémont qui nous parle de son vieux pommier qui donne de moins en moins de fruits et beaucoup de branches en fouillis au centre. On m'a parlé de taille de rajeunissement. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que je peux faire moi-même sans le condamner ?
Une taille de rajeunissement sur un fruitier, on va venir avec une scie obligatoirement, surtout pas de tronçonneuse, parce que la tronçonneuse va vous inciter à enlever des grosses sections qui seront négatives pour la structure de l'arbre. On sait qu'on ne doit pas descendre, qu'on ne doit pas tailler des branches plus grandes que de 10 cm de diamètre, parce que jusqu'à 10 cm, la végétation arrivera à cicatriser les plaies. Au-delà, ce sera des problèmes de champignons, d'humidité qui vont rentrer dans la partie du bois qui est la structure portante du pommier. Donc maximum 10 cm de diamètre. Et puis, une fois que vous avez votre scie, vous sectionnez ces éléments, vous cherchez une harmonie au niveau des sous-charpentières et des charpentières. Il faut aussi savoir que la partie inférieure du fruitier, il faut parvenir méchamment au niveau des tailles parce que les branches qui sont en dessous de la grosse couronne, si elles sont en manque de luminosité, elles vont périr, elles vont dessécher. En haut, c'est jamais un problème. La hauteur, les cimes, les prolongements de charpentières, là, vous pourrez toujours réintervenir, ça va toujours redémarrer, mais il faut vraiment porter soin, entretenir régulièrement et pas trop tailler les charpentières, sous-charpentières du dessous du végétal.
Les jardinières.
Ce matin dans les jardinières, on a pris le temps de parler des haies, à quoi elles peuvent servir dans un jardin, comment choisir leur emplacement, quelles essences privilégier et comment bien les installer pour qu'elles tiennent sur la durée. Vous pourrez réécouter tous les conseils de notre invité Jean-Pierre Ribaud en podcast dans le courant de la matinée sur notre site. Jean-Pierre, avant de vous laisser repartir à votre nature, si nos auditrices et auditeurs veulent profiter de ce week-end pour s'occuper de leur jardin, quelles seraient selon vous les actions prioritaires à faire en ce moment, que ce soit pour une future haie ou plus largement pour préparer la saison à venir.
Bien sûr que pour la future haie, si des privés sont intéressés, analyser la situation, se remettre en question, se poser les bonnes questions, quelle essence on va garder, si on va partir avec des arbustes à fleurs, à fruits, des persistants. Une fois que cela sera fait, trouver un concessionnaire et puis organiser ses futures implantations. Et puis pour ceux qui ont des haies et puis qui ont quand même envie de passer un temps dans leur jardin, alors c'est quand même la bonne période aussi sur laquelle on peut les tailler, ces haies, que ce soit n'importe quelle essence de haie, c'est la très bonne période maintenant, période de végétation morte. En général, on les taille au mois d'août, faut comprendre la raison. En août, la végétation elle a fini de se développer. Une fois que vous aurez taillé votre haie carrée, alignée, elle ne va pas redémarrer avant le mois de mai l'année d'après. Et puis, vous aurez toute cette période qui sera une haie taillée rectangulaire régulière. Et puis, si vous voulez les rabattre ou si vous voulez diminuer la largeur, aucun souci, c'est la très très bonne période, sauf que il faut vraiment éviter ça sur le tuyau, le sapin, ça j'ai dit. Après tous les autres essences, on arrive vraiment à les rabattre. Même le laurier, une haie de laurier de 2 mètres, vous pouvez la rabattre à 50 cm de largeur, ça va redémarrer sans problème. Et puis ce qu'on peut faire aussi au niveau d'entretien, si vous avez un compost, un mulchi ou des composts communaux, vous pouvez faire un mulchi au pied de la haie. Ça a plusieurs avantages. Ça va garder l'humidité au niveau du sol pour l'été prochain. Ça amène quand même pas simplement d'éléments fertilisants. Ça évite l'arrivée des herbes indésirables et puis ces éléments-là. Et puis ce qu'on peut aussi rencontrer souvent dans des haies, c'est que on a d'autres essences qui se développent, voire même des ronces. Là, faut vraiment prendre le temps d'aller les arracher avec une bêche, enlever carrément le pied, le démarrage pour éviter que ça ne revienne. Si malheureusement vous avez des frênes que vous avez déjà coupées quelques fois dans cette haie, le problème c'est que vous multipliez la grandeur du pied puis ce sera toujours plus difficile à les arracher. Donc jamais les couper, tout de suite les arracher, les plantes que vous souhaitez pas dans votre haie pour garder votre haie homogène. Et puis, pour les gens qui auraient des haies avec des arbustes à fleurs, bien sûr que c'est aussi la super période pour la taille. On peut aussi faire des rosettes tout autour, dégager les pieds, enlever l'herbe. Enfin voilà, il n'y a pas simplement d'entretien qu'on peut quand même réaliser sur ces végétaux malgré la période hivernale pour avoir un joli aménagement printanier.
Merci Jean-Pierre. On rappelle, vous êtes paysagiste à Queuves chez Ribaud Paysages. Merci beaucoup d'avoir partagé votre expérience avec nous ce matin.
Merci à vous, ça a été un super plaisir et puis des belles fêtes pour tout le monde.
Merci Jean-Pierre et merci à vous Léo, c'était votre dernière aujourd'hui. Vous partez en voyage à travers le monde, c'est ça ?
Oui, tout à fait, Noélie. Je décolle pour le Vietnam et les pays d'Asie dans quelques semaines avec ma compagne. Un voyage à durée indéterminée. En tout cas, je vous remercie, Noélie, pour tous ces instants de radio. Je remercie également toutes nos invités, tous nos invités des jardinières. J'ai pris beaucoup de plaisir à partager ces moments avec vous. Et je parle également de nos auditrices et auditeurs, toujours fidèles tous les samedis matins pour nous écouter dans cette émission. Merci aussi à Mylène de m'avoir passé le flambeau et ses connaissances. Merci à vous toutes et tous qui m'écoutez. Prenez soin de vous et à bientôt, ici ou ailleurs.
Mylène qui va d'ailleurs reprendre son flambeau et elle sera avec nous pour le semestre prochain dans Les Jardinières. Merci infiniment Léo. Je vous souhaite un très bon voyage. Prenez soin de vous et à très vite sur RJB, RFJ et RTN. Nous recevrons la semaine prochaine Olivier Ribaud, pépiniériste à Porrentruy. À très vite.
7h, 8h, Les Jardinières.